Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Antoine Cavallero, Marion Calais, bonsoir à vous deux.
Bonsoir Isabelle,
bonsoir à tous.
Et à la une de cette RTL Soir, vos deux heures d'infos, encore une tuile pour les Bleus et un milieu de terrain décimé, Antoine.
Après N'Golo Kanté, c'est Paul Pogba qui déclare forfait pour la Coupe du Monde de foot. Il lui faudra plus de temps pour se remettre de son opération au genou.
L'équipe de France passe au mieux à 3 semaines et 1 jour, très précisément, de son premier match au Qatar. L'état de santé de nos Bleus au rayon X dans les dessous de l'actu à 18h30. À suivre aussi, Antoine.
La motion de censure du Rassemblement National rejetée, place à celle de la France Insoumise, soutenue, rappelons-le, par les députés RN. La version du meurtrier présumé de Justine Vérac, mise à mal par l'autopsie. Et puis le contrôle technique qui devient obligatoire pour les deux roues. Qui est concerné, à partir de quand? On vous explique tout.
Dans RTL Soir également, la brigade RTL, une enquête hors norme et un début de mea culpa des autorités sud-coréennes après la bousculade qui a fait plus de 150 morts samedi soir à Séoul. À 18h15, l'invité de RTL Soir, la députée Europe Écologie Les Verts, Lisa Bellouco. Elle était ce week-end de la manifestation anti-bassine dans les Deux-Sèvres. Manifestation pourtant interdite. Qui faisait-elle et pourquoi est-elle allée au-devant des forces de l'ordre qui lui demandaient pourtant de reculer? Ses réponses dans moins d'un quart d'heure maintenant. Jusqu'à 20h aussi, laissez-vous tenter dernière en mode sorcière ce soir d'Halloween. Et puis à 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien et toute la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Au menu.
Soupe sur les tableaux, blocage des autoroutes et autres actions choc et non violentes ce soir. Vous allez tout savoir sur les modes d'action des activistes. Au menu également, les films d'horreur qui résistent à la crise du cinéma et une drôle d'idée de balade pour Halloween.
À 19h15, on refait le monde autour d'Aurélie Herbemont et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous. Claire Delorme, bonsoir.
Bonsoir Marion.
La tendance?
Eh bien, un temps relativement perturbé, surtout pour ce soir, et on surveillera deux choses. Un fort coup de vent en direction du quart nord-ouest avec des rafales à plus de 120 km/h, et d'un autre côté, des pluies qui pourraient être très soutenues en direction de l'extrême sud-est.
Voilà, point complet, juste après le journal.
RTL Soir.
Le journal, Marion Calais, Antoine Cavallero.
À 3 semaines du mondial de foot au Qatar, un nouveau coup dur pour Didier Deschamps. Paul Pogba déclare forfait. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Il pensait être guéri de sa blessure au genou, mais il est à présent touché à la cuisse.
Oui, après 6 mois sans jouer, une opération au genou repoussée dans un premier temps, puis acceptée, contraint et forcée. Paul Pogba pensait garder une petite chance de gagner sa course contre la montre. Il avait repris l'entraînement ces derniers jours, évacuant par la même occasion pour un temps au moins ses soucis familiaux et judiciaires, victimes de tentatives d'extorsion de fonds ces derniers mois. Et là, c'est la cuisse qui, cette fois, n'a pas suivi. Lésion musculaire, soit au moins 3 semaines d'absence supplémentaire. Trop long, donc, pour espérer rejouer avant le Mondial. Alors, c'était, on s'en souvient, la condition sine qua non, fixée par le sélectionneur Didier Deschamps, qui doit annoncer sa liste, on s'en souvient, dans 9 jours maintenant, pour le Qatar. Ce sera donc sans Paul Pogba, qui a préféré devancer la décision via un communiqué cet après-midi de son avocate Raffaella Pimenta. Paul Pogba, donc, après N'Golo Kanté, c'est le deuxième forfait officiel d'un cadre des Bleus champion du monde en 2018. L'inquiétude pèse toujours sur d'autres noms, Raphaël Varane, Lucas Hernandez. Le sélectionneur Didier Deschamps n'est donc peut-être pas au bout de ses peines.
Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot ici à RTL.
Voilà, et on passera en revue l'état de forme de nos Bleus tout à l'heure avec vous, Philippe.
Il y a
à
des
18h30, il y a quelques bonnes nouvelles. Très bien, on vous retrouve tout à l'heure dans les dessous de l'actu.
RTL Soir.
À 18h04, on file à présent à l'Assemblée où une nouvelle motion de censure vient d'être rejetée.
Un nouvel échec pour le Rassemblement National. Thomas Desprez, vous êtes en direct de l'Assemblée. C'est désormais au tour du texte de la France Insoumise d'être débattu. Motion soutenue par les députés RN.
Oui, pour la deuxième fois en une semaine, c'est Sébastien Chenu, député RN du Nord, qui l'a annoncé tout à l'heure dans l'hémicycle.
En parlementaire libre, eh bien, ils voteront toute motion destinée à vous faire revoir votre copie dans l'intérêt de la France et des Français.
Au même moment, on a pu voir des visages se crisper dans les rangs de la gauche. Sébastien Jumel, député communiste.
Vos votes, nous ne les voulons pas. Vos voix, nous ne les voulons pas. Gardez-les pour vous. Votre opposition n'est pas la même que la nôtre. Restez chez vous.
Sébastien Jumel, très remonté. Marine Le Pen, elle confirme que son groupe continuera de signer toutes les motions qui seront déposées. L'insoumis Éric Coquerel n'est pas ravi, mais pour lui, c'est la seule façon de faire tomber le gouvernement.
On n'a rien à voir avec le Rassemblement National. Le Rassemblement National n'a rien à voir avec nous. Moi, je ne vais pas poser sans arrêt la question à la majorité de savoir si ça les satisfait de faire passer des articles ou des amendements grâce aux voix du Rassemblement National.
On attend désormais le résultat de cette motion de censure. Sans surprise, elle devrait être rejetée. Réponse d'ici une petite dizaine de minutes.
Thomas Després en direct de l'Assemblée pour RTL.
C'était l'une des zones d'ombre dans l'affaire Justine Vérac. Après autopsie, on sait que la jeune femme de 20 ans est morte étranglée.
C'était le week-end dernier en Corrèze, après une sortie en boîte de nuit. Guillaume Chies, bonsoir.
Bonsoir.
Des éléments nouveaux qui mettent à mal la version de Lucas, le suspect qui a reconnu l'avoir tué.
Oui, parce qu'en garde à vue, alors qu'il passait aux aveux, Lucas a expliqué aux enquêteurs qu'il n'avait donné qu'un seul coup de poing à Justine Vérac, un coup de poing fatal, mais déjà les premières constatations avaient pu démontrer que le jeune homme ne disait pas la vérité. Selon le procureur de Limoges, la jeune femme a subi plusieurs coups, dont au moins un avec une arme contondante. Le fait qu'il l'ait ensuite étranglée pour la tuer, comme le démontre l'autopsie, rend encore moins plausible la défense du jeune homme. Impossible dans ce cas d'invoquer des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Désormais, les enquêteurs attendent les résultats des analyses toxicologiques. Il pourrait permettre de déterminer si oui ou non la jeune mère de famille a été droguée à son insu, comme le pensent certains de ses amis présents cette nuit-là.
Guillaume Chies du service police justice de RTL, merci à vous.
Le trafic reprend à présent en mer Noire, au moins 10 bateaux sont partis d'Ukraine.
Dans les cales, des milliers de tonnes de blé indispensables pour bien des pays en Afrique et au Moyen-Orient. Malgré le retrait russe de l'accord sur les céréales, la Turquie et l'ONU ont donc décidé de passer en force. Timur Turc, vous êtes à Istanbul, là où transitent les bateaux ukrainiens.
C'est un pari risqué. L'ONU, la Turquie et l'Ukraine décident de passer outre la suspension de la participation russe à l'accord en misant sur le fait que Moscou n'osera pas couler un cargo en mer Noire. Le Kremlin s'est retiré de l'accord samedi. Hier, aucun navire n'a quitté les côtes ukrainiennes et finalement, les exportations ont repris aujourd'hui. Mais attention, l'accord est plus fragile que jamais. Le ministre russe de la Défense a appelé son homologue turc cet après-midi pour évoquer le sujet. Impossible de garantir la sûreté de la navigation, prétend Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Ces exportations de céréales deviennent beaucoup plus dangereuses, ce sont ces mots, des menaces à peine voilées.
Merci Timur Öztürk, correspondant RTL en Turquie. Et puis au Brésil, le silence assourdissant de Jair Bolsonaro au lendemain de sa défaite face à Lula. Le président sortant n'a toujours pas pris la parole. On y revient dans le journal de 19h.
Votre journal se poursuit dans un instant et après plusieurs rebondissements cette fois. C'est officiel, le contrôle technique pour les deux roues devient obligatoire. Tous les détails à suivre juste après ça.
Marion Calais, RTL Soir jusqu'à 19h15. 18h, 19h15, RTL Soir, Marion Calais.
Avec Antoine Cavallero pour la suite du journal et l'épisode d'un feuilleton, l'épilogue d'un feuilleton à rebondissement. Le contrôle technique des deux roues va bien devenir obligatoire.
L'été dernier, les propriétaires de scooters ou de motos soufflent. Emmanuel Macron décide de ne pas appliquer la décision européenne. Trois mois plus tard, ce lundi, le Conseil d'État donne tort au président. Bonjour, bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Spécialiste transport ici à RTL. Tout d'abord, qui va être concerné par ce contrôle technique?
Alors, si on se base sur le décret qui devait être appliqué en France, les motos et scooters à partir de 50 cm3 seront concernés. L'Europe nous imposait uniquement les deux roues supérieures à 125 cm3, mais la France avait décidé d'englober tous les deux roues, sauf les électriques. Ceux qui devront réaliser le plus rapidement leur contrôle technique sont donc les motos et scooters immatriculés avant le 1er janvier 2016. Pour rappel, les contrôles techniques devront se faire tous les deux ans.
Le contrôle technique devait entrer en vigueur début 2023. Est-ce que la date va être respectée?
Alors ça, c'est toute la question et ce n'est pas du tout tranché. Contacté ce soir, le ministère des Transports dit prendre acte de la décision du Conseil d'État, mais souligne que cette décision ne conduit pas à une entrée en vigueur immédiate du contrôle technique pour les deux roues. Une concertation avec les associations plaignantes et les fédérations des motards aura lieu prochainement pour s'accorder sur une date définitive cette fois, car le gouvernement ne peut plus faire marche arrière désormais.
Merci Arnaud Touche du service économie de RTL.
Allez, on va aller retrouver des petits heureux, des petits heureux maintenant, des bonbons ou un sort, c'est Halloween pour le plus grand bonheur des enfants.
Des zombies courent sur pattes, des fantômes hauts comme trois pommes, c'est l'heure d'aller sonner aux portes. Yannick Holland, vous suivez justement les derniers préparatifs chez une famille strasbourgeoise.
Et oui, ici Ben, 8 ans, hésite encore entre deux déguisements avant d'aller sonner aux portes des voisins. Ce sera soit en Harry Potter, soit avec un costume un peu plus effrayant.
Le déguisement de squelette tout le squelette et le masque. Ce que j'aime bien, c'est que la journée, c'est comme si ça absorbait la lumière. Et après, la nuit, c'est comme si j'étais tout vert.
Son grand frère Enzo, 12 ans, a lui choisi d'inviter des copains à la maison pour un dîner spécial Halloween qu'il a lui-même cuisiné.
Un menu très étrange, on pourrait dire. Pizza à l'araignée, bolognaise ensanglantée, bûche au sang humain.
La bûche au sang humain, elle est déjà au frigo ou pas
elle est, non, elle est dehors en train de refroidir.
T'as prévenu tes copains, ils savent que ça va être gore à ce point-là?
Non, non, mais ils vont s'habituer.
Et reste à savoir si les invités auront encore faim pour ce dîner horrible avec tous les bonbons qu'ils auront récupérés.
Horrible.
La bûche au sang humain. Fallait l'inventer. Merci Yannick Collant, correspondant RTL à Strasbourg.
Et puis c'était l'une des voix mythiques de RTL, Philippe Alexandre, s'en est allé.
Il est décédé ce matin au Touquet, il avait 90 ans, une parole libre, audacieuse. Le président de l'époque, François Mitterrand, par exemple, lui reprochait ses analyses. Les éditos de Philippe Alexandre ont marqué l'histoire du journalisme politique. RTL. 7h44, Philippe Alexandre, bonjour. Alors Philippe, vous revenez ce matin sur la crise du CIP avec des confidences.
Le Premier ministre est à peu près sorti de l'épreuve que lui ont fait subir les jeunes. Reste tout de même Lyon, où la mobilisation demeure possible en faveur des deux Algériens hâtivement expulsés par le gouvernement. Et Nantes, où nombreux ont été les jeunes mis en état d'arrestation.
Évidemment, toutes nos pensées à sa famille et à ses proches.
Merci Antoine Cavallero. À tout à l'heure, 18h30. Le temps à présent avec vous, Claire Delorme, et on va surveiller ce coup de vent dans les prochaines heures.
Exactement, et ceci est dû à la dépression Claudio qui approche donc justement au niveau de la France. Une perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est dans le courant de la nuit. Donc cela va générer beaucoup de vent, mais surtout dans le quart nord-ouest. D'ailleurs, 4 départements sont placés en vigilance orange. Il s'agit du Finistère, du Morbihan, des Côtes d'Armor et de la Manche. Des rafales à plus de 100 km/h dans l'intérieur des terres et jusqu'à 120 km/h, voire plus, au niveau du littoral de la Manche. Mais il y a également un second point, des pluies que l'on va surveiller avec des orages en direction de l'extrême sud-est. Et c'est notamment le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône qui sont conservés. On pourrait là aussi avoir des vents violents, mais également accompagnés de grêles et de fortes pluies. Donc dans la matinée, par contre, ça va un petit peu se calmer. On aura quand même la perturbation qui va rester cantonnée sur le flanc est du pays, pouvant encore apporter des pluies localement soutenu. Bon, partout ailleurs, déjà une alternance de nuages, des éclaircies, beaucoup de nuages bas par endroits, mais ça va quand même se disloquer au fil des heures. Mais on a déjà une nouvelle perturbation qui va arriver par le quart nord-ouest. Et oui, ça sera le défilé des perturbations cette semaine. Autant annoncer la couleur d'entrée de jeu.
Ouais, c'est un temps de saison, presque,
oui, bah, exactement, un temps d'automne. Il était temps. Et donc, justement, cette perturbation, à nouveau des averses orageuses et le vent qui aura tendance un tout petit peu à faiblir, mais il restera quand même en compris entre 90 et 100 km/h.
Et les températures?
Alors, les températures, là aussi, on y vient. Elle reste encore un tout petit peu au-dessus des normales, mais ça baisse progressivement. Le matin, il faudra comprendre entre 9 et 14 degrés du nord au sud. Et donc l'après-midi, je vous le disais, en baisse, 15 à 20 degrés du nord au sud, avec encore des pointes de 24 degrés près de la Méditerranée.
Un temps de saison, enfin.
Enfin.
La brigade RTL soir.
Dans la brigade RTL ce soir, la Corée du Sud, deux jours après la bousculade d'Halloween qui a fait 155 morts et 30 blessés, toujours dans un état grave. Bonsoir Philippe Dova.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
Correspondant de RTL en Asie, des défilés encore aujourd'hui à Séoul, l'émotion ne retombe pas.
En effet, Marion, c'est tout un pays qui pleure ses jeunes victimes et s'associe à la douleur insoutenable des familles décimées. Le président sud-coréen et son épouse, au bord des larmes, ont déposé des chrysanthèmes blancs et se sont recueillis au pied de l'hôtel érigé dans le centre de Séoul en hommage aux victimes. Toute la journée, des milliers d'anonymes, incapables pour beaucoup d'entre eux de retenir leurs sanglots, ont eux aussi déposé des chrysanthèmes au pied du monument et à proximité de la ruelle de l'horreur à Itaewon.
Alors il y a l'émotion toujours sur les lieux du drame, et puis il y a aussi l'enquête, hein, Philippe, qui se poursuit.
Oui, en effet, pas moins de 475 enquêteurs sont mobilisés depuis hier pour tenter de comprendre les causes exactes de la tragédie. Et ils passent en boucle les vidéos prises par 52 caméras de surveillance installées à 42 endroits distincts à proximité du lieu du drame, visionnent également les vidéos et les messages publiés sur les réseaux sociaux, interrogent les propriétaires des bars, des boîtes de nuit, les témoins, les survivants, recoupent et vérifient les témoignages tout en faisant la chasse aux fausses rumeurs.
Et les autorités, Philippe, ont fait un premier mea culpa aujourd'hui sur ce drame.
Ah oui, et puis il était temps parce que face aux critiques incessantes, notamment sur les sous-effectifs des forces de l'ordre, le directeur de la police nationale en charge de l'ordre public a reconnu aujourd'hui l'incapacité de ses équipes à anticiper les conséquences meurtrières de l'augmentation soudaine de la foule et l'absence totale de filtrage, mais en avançant l'excuse que la police n'était pas formée à la sécurité de rassemblements sans organisateur identifié. Alors, c'est un argument insupportable pour les familles des victimes et pour le président sud-coréen qui a exigé de son gouvernement qu'un système efficace de contrôle des foules lors d'événements spontanés soit mis au point sans délai.
Voilà, mea culpa partielle et en tout cas réaction des autorités, brigade RTL, après ce drame de Séoul, signé Philippe Dova, correspondant en Asie. Merci à vous.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Dans un instant, l'invité de RTL Soir, Lisa Bellucco, députée Europe Écologie Les Verts, après sa participation à la manifestation de Sainte-Soline et après un nouveau 49-3 à l'Assemblée, la motion de censure des Insoumis soutenue par le Rassemblement National. À tout de suite.
Marion Calais,
RTL Soir jusqu'à 19h15. Marion Calais,
l'invité d'RTL Soir.
À 18h20, l'invité de RTL Soir était ce week-end à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, où des manifestants se sont opposés, parfois violemment, à la poursuite des travaux pour la construction d'une bassine, une vaste retenue d'eau destinée à l'irrigation des cultures de quelques 400 agriculteurs. Bonsoir, Lisa Bellucco.
Bonsoir.
Députée Europe Écologie Les Verts du département voisin de la Vienne, vous avez très rapidement expliqué ce week-end avoir été molestée lors de cette manifestation. Alors il y a eu des images qui ont été dévoilées cet après-midi. On vous voit continuer à avancer vers les forces de l'ordre alors qu'elles vous demandent de reculer dans une manifestation par ailleurs interdite par la préfecture. Votre écharpe tricolore autorise-t-elle vraiment tout, Lisa Bellucco?
Je ne crois pas que la présence d'une élue de la République dans une manifestation soit en soi une provocation. Par ailleurs, je ne pense pas que j'étais un danger absolu en avançant, en marchant calmement, les mains en l'air. Donc je pense déjà qu'il faudra remettre les choses à leur juste place. Et ensuite, il est tout à fait légitime qu'un député soit présent dans une manifestation. C'est notamment son rôle de contrôle de l'action de l'État.
Même dans une manifestation interdite ?
Enfin, déjà... Manifestation interdite, ça ne veut pas dire grand-chose en France, parce que je vous rappelle que la Constitution...
Ce sont des zones qui sont interdites aux manifestants, par la préfecture.
Voilà. Une manifestation interdite, ça n'existe pas, effectivement. La Constitution instaure une liberté fondamentale, qui est la liberté de manifester en France. Donc, nous sommes libres de manifester. La zone était interdite aux véhicules. Mais la manifestation était bien présente.
La manifestation était bien présente, mais vous avez été au-devant des forces de l'ordre. Ces images, vous comprenez qu'elles interpellent, notamment de la part d'un élu de la République.
Encore une fois, je vois pas en quoi c'est une provocation. Et je vous rappelle que les hors-la-loi, ce sont le gouvernement. Enfin, on est à la veille de la COP27. On fait tout un blabla pour trois images qui montrent une députée avançant les mains en l'air. Enfin, c'est un scandale absolu, je suis une danger pour la République. Mais moi, ce que je vous rappelle, le vrai danger pour notre République, c'est quand même qu'on a un gouvernement qui a été condamné trois fois pour son incapacité à lutter contre la pollution de l'air, qui tue des gens chaque année, et deux fois pour une action climatique. Donc il faut un peu remettre l'église au milieu du village et rappeler les vrais sujets, plutôt que de faire tout un tas de diversions et d'écrans de fumée autour de ces vidéos, qui filment quoi, qui montrent quoi, de quel angle, et pour dire quoi, en fait.
Bon, alors c'est vous tout de même qui aviez dit que vous aviez été molesté. Ces vidéos, elles ont été dévoilées cet après-midi. D'ailleurs, vous aviez dit que vous iriez faire constater vos blessures chez le médecin. Vous l'avez fait?
Alors, j'ai vu le médecin de l'Assemblée nationale qui m'a conseillé d'aller... voir la police pour porter plainte et pouvoir faire constater mes ecchymoses par un médecin légal à l'Institut médico-légal. Donc je vais le faire dès que nous aurons raccroché. Et je ne veux pas que ma parole soit remise en cause, donc il faut absolument que ces blessures soient constatées.
Alors vous disiez vous-même ce matin ne pas exclure la création d'une ZAD à Sainte-Soline. Dans les faits sur place, en fait, il ne reste plus qu'une cinquantaine d'opposants qui se replient, en fait, qui jouent l'apaisement, qui demandent une rencontre avec la préfète. Est-ce que vous n'avez pas été trop loin dans vos mots aussi, Lisa Bellucco ?
Mais c'est fabuleux. Moi, j'ai jamais parlé de ZAD, j'ai répondu à une question.
En fait, vous n'avez pas exclu la création d'une ZAD.
J'ai répondu à une question sur une ZAD. Ce que l'on rappelle et ce que l'on ne cesse de rappeler, nous, politiques, en soutien de ces manifestants et eux-mêmes, collectifs et associations, c'est simplement de réouvrir le dialogue. En fait, c'est la revendication initiale, c'est quand même dialoguer, mettre tous les acteurs et tous les usagers de l'eau autour de la table pour avoir un vrai débat sur tous les usages de l'eau et pas uniquement les usages agricoles pour les irrigants. Donc là, la revendication n'a pas changé. L'enjeu, c'est ouvrir le dialogue, réouvrir le dialogue avec le gouvernement en mettant vraiment tout le monde autour de la table. Et la ZAD ou les méthodes autres d'entrer en résistance pour lutter pour le droit fondamental à accéder à l'eau pour toutes et tous, il pourra arriver si le gouvernement donne une fin de non-recevoir.
Mais la
revendication de base, c'est le dialogue.
Donc la ZAD, c'est si jamais le gouvernement ne répond pas et l'État ne répond pas. Aujourd'hui, on en est où ?
Vous avez bien constaté que je ne suis pas une militante de l'un des collectifs. Je suis une députée de la République. Je ne connais donc pas la stratégie de ces militants pour se faire entendre. Je dis juste que je comprendrais tout à fait qu'ils cherchent à occuper le terrain s'ils reçoivent encore une fois une fin de non-recevoir. Ils sont du côté de l'intérêt général. Ils sont pour la défense de l'eau pour tous. Ils sont pour la défense de l'eau potable. Je vous rappelle qu'on est encore en restriction d'eau en ce moment dans les Deux-Sèvres. Il y a encore une sécheresse et il y a encore des restrictions sur les usages de l'eau. Un 31 octobre.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, a-t-il été trop loin de son côté en évoquant des modes opératoires qui relèvent de l'éco-terrorisme ?
J'ai envie de vous dire comme d'habitude. Comme d'habitude, M. Darmanin s'illustre en utilisant un terme qu'il rapproche plus du Rassemblement national que de la préoccupation écologique et de l'intérêt général. Mais bon, on le sait coutumier du fait, donc ce n'est même pas étonnant.
Votre homologue de l'Assemblée, la députée des Deux-Sèvres, Delphine Bateau, demande un référendum local. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui ? Parce que Sainte-Soline, c'est un peu l'avant-poste de ces projets de bassines. Des projets de bassines, il y en a des dizaines dans toute la France. Est-ce que sur ces projets-là, il faut systématiquement en référer à la population ? Que la population ait son mot à dire ?
En fait, sur ces projets-là, il faut que tous les usagers de l'eau aient leur mot à dire. Et c'est inclus, puisqu'on parle de loi, puisqu'on parle de légalité. La loi dit que le premier usage de l'eau, c'est l'eau potable. L'usage numéro un dans la loi, c'est l'eau potable. Donc il faut absolument, et par tous les moyens, préserver l'accès à l'eau potable pour toutes et tous dans de bonnes conditions. L'usage numéro 2 qui est inscrit dans la loi, c'est l'eau pour les milieux. C'est-à-dire il faut continuer à permettre à la faune et à la flore de vivre. Parce qu'en fait, si la faune et la flore ne vivent pas, les êtres humains non plus. C'est un petit peu basique, mais bon, ça fait du bien de le rappeler. Et en 3, c'est l'eau pour l'agriculture. Donc, il faut mettre tous ces usagers autour de la table, ou les représentants de ces usagers, que sont les associations, les producteurs d'eau potable, les agriculteurs. Et il faut avoir un vrai débat sur tous les usages de l'eau, pas seulement les usages pour l'irrigation, mais tous les usages de l'eau.
Un débat donc et un dialogue sur ces sujets de bassines. Un mot de politique, Lisabeth Lucco. Vous êtes à l'Assemblée, hein, on l'entend derrière vous, où une nouvelle fois, le Rassemblement national a soutenu la motion de censure des Insoumis. Dans ce contexte, vous avez voté quoi, vous, comme le RN ?
Moi, j'ai voté pour la motion de censure des Insoumis. Le RN a apparemment voté comme nous. Il faut remettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que vous aurez bien remarqué que nous n'avons jamais appelé les voix du RN. Après, vous savez aussi qu'à l'Assemblée nationale, on ne peut voter que pour ou contre. On ne peut pas voter pour, mais sans le RN, ou contre, mais avec le RN, ou je ne sais quoi, ou je ne sais qu'est-ce.
Elisabeth Borne a évoqué aujourd'hui la nouvelle union des populismes.
C'est les méthodes de com'. Écoutez, ce que je voudrais rappeler, c'est quand même qu'il y a des députés Renaissance ou des députés de la coalition Ensemble qui ont voté pour qu'il y ait un vice-président Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. Moi, j'ai jamais voté pour un candidat RN, nulle part, jamais. Eux l'ont fait. Donc il y a un moment, il faut remettre les choses à leur place. Moi et nous, écologistes, nous n'avons jamais voté pour le RN et nous n'avons jamais appelé à voter avec le RN. Renaissance et la coalition présidentielle Ensemble l'ont fait. Ils ont voté pour un candidat RN, Sébastien Chenu.
Merci Lisabeth Lucco, députée Europe Écologie Les Verts de la Vienne, d'avoir été notre invitée ce soir sur RTL. RTL Soir se poursuit dans un instant. Les mots des bleus et des sorcières, les dessous de l'actu. Laissez-vous tenter dernière à suivre. À tout de suite.
RTL Soir.
Marion Calais. RTL, s'informer ensemble.
18h32.
Marion Calais.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
Et si vous avez raté son journal tout à l'heure, les trois grands titres de l'actu avec vous, Antoine Cavallero.
Et de deux après le Rassemblement National autour de la France Insoumise, sa motion de censure rejetée. Et voilà le budget 2023 de la Sécurité Sociale adopté en première lecture à l'Assemblée. Avis aux propriétaires de deux roues, le contrôle technique va devenir obligatoire. On ne connaît pas encore la date d'entrée en vigueur. Et puis le tennis, Gasquet qualifié pour le deuxième tour du Master de Bercy. Victoire expéditive contre le Slovaque Alex Molcan dans une heure. Gilles Simon affronte Andy Murray. C'est le dernier tournoi du joueur de 37 ans.
Merci Antoine Cavallero. Bonne soirée à vous. La météo, Claire Delorme, du vent, de la pluie, des températures qui se rafraîchissent. Bref, c'est l'automne. Quoi.
Exactement. Une perturbation va traverser dans le courant de la nuit le pays d'ouest en est, apportant un fort coup de vent sur le quart nord-ouest. Plusieurs départements sont placés d'ailleurs en alerte et des pluies également à surveiller dans l'extrême sud-est, notamment les Bouches-du-Rhône.
Merci Claire.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Les dessous de l'actu, les dessous d'une inquiétude qui grandit à 3 semaines et 1 jour du premier match des Bleus pour le Mondial. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Inquiétude liée à l'état de forme d'un certain nombre de joueurs clés avec la crainte de forfaits en cascade après celui de N'Golo Kanté. Paul Pogba est désormais officiellement indisponible.
Oui, une lésion à la cuisse venue se greffer donc sur un parcours de rééducation déjà bien lourd hein, suite à son opération au genou. C'en était trop pour le milieu de terrain de la Juventus, déjà absent depuis maintenant 6 mois, fin du suspense donc et constat implacable pour Didier Deschamps. Kanté, Pogba, ajouté à la fin de carrière internationale de Blaise Matuidi, c'est l'intégralité du milieu de terrain champion du monde en 2018 qui ne verra pas le Qatar. Il reste 9 jours maintenant au sélectionneur pour égrener les noms des 23 ou 24, on ne sait pas encore, joueurs retenus. Parmi eux, eh bien, Aurélien Tchouaméni ou Adrien Rabiot vont être propulsés au rang de titulaires sans beaucoup de certitude, il faut bien le dire, sur la complémentarité de ce duo au plus haut niveau.
Bon, alors au-delà de ce milieu de terrain décimé, il y a d'autres joueurs dont l'état de santé inquiète, Philippe ?
Eh oui, malheureusement, en défense par exemple, hein, parmi les titulaires, Raphaël Varane, cuisse droite, lui aussi, blessé il y a une semaine. Il a d'ores et déjà quitté Manchester et son club de United pour venir se soigner à Clairefontaine, directement entre les mains du staff médical des Bleus. Ce sera court, mais l'espoir demeure. Une bonne nouvelle quand même aujourd'hui, Lucas Hernandez, toujours dans le secteur de la défense, a repris lui l'entraînement collectif avec le Bayern à Munich aujourd'hui. Il faut maintenant qu'il enchaîne les matchs, c'est indispensable.
Alors pour les Bleus, il y a encore une journée de Ligue des Champions avec leur club, ça ce sera demain et mercredi. Les joueurs, est-ce qu'ils peuvent demander à être laissés au repos pour se préserver ou Didier Deschamps veut pouvoir les juger sur pièce sur le terrain?
Alors là, c'est vraiment à la carte, hein. Pour faire très simple, il y a ceux qui sont blessés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'était le cas de Pogba. Et là, il est indispensable que ces joueurs, au-delà d'être guéris, rejouent plusieurs matchs pour retrouver du rythme et des repères. C'est le cas, on l'a dit, de Lucas Hernandez ou encore du Parisien, Presnel Kimpembe, qui vient de reprendre. Et puis, il y a les blessures très récentes, Raphaël Varane, par exemple, ou les fatigues musculaires, comme Karim Benzema. Et là, c'est tout l'inverse, hein. Mieux vaut les laisser le plus possible sous cloche, au repos, même si c'est délicat, hein, puisque on rappelle que ce sont les clubs quand même qui payent les salaires. Mmh. Et là, c'est au bon vouloir de ces derniers de se montrer conciliants.
Voilà, et pour Didier Deschamps, 9 jours donc pour faire sa liste au milieu de ses joueurs. Le chrono pour le sélectionneur, les dessous d'une infirmerie un peu trop remplie. Philippe Sanfourche, merci.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
18h36.
Laissez-vous tenter, dernière. Laissez-vous tenter, dernière.
Laissez-vous tenter, dernière, en mode sorcière et épouvante pour Halloween. Bonsoir Laurent Marsic.
Bonsoir.
Pour cette soirée d'Halloween, vous êtes venu avec de très jolies pépites littéraires incontournables comme ce grand album baptisé Sorcière.
Grand par son format et par son contenu, voici dans la série L'Encyclopédie du Merveilleux, dirigée par l'illustrateur de renom Benjamin Lacombe, une encyclopédie sur les sorcières. Sous la plume de Cécile Roumiguière, nous partons à la découverte des sorcières qui peuplent les contes et la mythologie. C'est la Baba Yaga, par exemple, la sorcière d'Hansel et Gretel, les sorcières séductrices au Japon, ou encore les premières sorcières, Lilith, le démon féminin de la tradition juive, le serpent qui provoque la chute d'Ève et incite Caïn à tuer Abel. Mais, et c'est tout ce qui fait le sel de ce livre, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, ces sorcières étaient surtout des femmes qui pensaient autrement. Cécile Roumiguière.
Alors oui, il y a de ça, elles étaient surtout très proches de la nature et du corps des femmes, ce qui en a fait principalement des guérisseuses. À un moment, elles ont dérangé, non pas parce qu'elles soignaient, mais plutôt parce que souvent ces femmes-là étaient des veuves ou des femmes seules qui n'avaient pas l'autorité d'un homme au-dessus d'elles. Et dès qu'il a fallu un bouc émissaire au temps des guerres de religion, on les a utilisées. J'avais envie aussi de réconcilier les enfants avec cette image, avec la sorcière, en enlevant l'image du chapeau pointu nez crochu, en leur montrant que c'était des femmes avant tout humaines et l'interrogation que nous donnent aujourd'hui ces sorcières, c'est et si on vivait dans un monde un peu différent où les femmes aient non seulement leur place, mais peut-être nous apprennent aussi des tas de choses. Et ça, c'est très 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 actuel, bien sûr.
Est-ce qu'elle dit encore ce que la petite Greta Thunberg, peut-être qu'on l'aurait brûlée à une autre époque. Dessin de Benjamin Lacombe, sublime dedans, Les sorcières est édité chez Albin Michel Jeunesse.
Autre livre, celui-là est pour les plus grands, avec le maître de l'épouvante, Stephen King.
Toujours chez Albin Michel Jeunesse, générique de Shining, ça s'imposait, qui depuis 2019 publie une série de textes courts, moins de 300 pages, signé donc Stephen King. Voici N. N, c'est le patient de Johnny, un psychiatre qui vient de mourir. Ce livre, ce sont les conversations qu'ont eues les deux hommes en consultation. On ne sait pas vraiment quand ni comment tout a commencé. Toujours est-il qu'un jour, par hasard, N se baladait autour d'Ackerman's Field, un endroit désert dans le Maine. Et le hasard, encore, le fait tomber sur un alignement de pierres. 7 pierres dressées, mais à travers l'objectif de son appareil photo, N croit en compter 8. N compte, recompte, et la panique s'empare de lui. Et s'il avait découvert l'endroit précis où se situe, dit Stephen King, le voile qui sépare la réalité rassurante d'un univers parallèle. N n'est plus capable de vivre normalement, il devient la proie de tous ses troubles obsessionnels compulsifs, il se met à tout compter et va contaminer son psychiatre. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de fantôme dans ce livre, mais une atmosphère lourde, pesante, flippante. Je l'ai lu un soir, j'ai vraiment eu la trouille angoissante, terrifiante. N de Stephen King est donc publié chez Albin Michel Jeunesse. Vous mettez ça plutôt entre les mains des 14-15 ans.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, une petite pause et ensuite on défait le monde. Cyprien Signy, Isabelle Choquet, Laurent Tessier, déjà installés en studio. Oui. Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous.
À tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.